que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile, en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 4 juin sur Escapade. On commence dans le Gard avec quelques petits rendez-vous à noter. Tout d'abord, ce tract qui nous est parvenu par la CGT hospitalière et qui vous invite à un rendez-vous pour la santé mentale de nos jeunes. Ça sera mardi prochain à 18h devant la sous-préfecture du Vigan, car oui, c'est bien au Vigan que ça commence à coincer la situation. Ça fait un an que le centre médico-psychologique, donc pour enfants et adolescents, le CMPEA, est fermé, partiellement fermé, faute de médecins psychiatres qui pourraient assurer les consultations. Ça fait quand même 500 élèves du bassin viganais qui ne peuvent donc plus bénéficier de ce service de santé indispensable pour le suivi et le diagnostic des troubles du comportement, mais aussi quand il faut par exemple faire des dossiers pour les aides au handicap ou la détection de tous les troubles 10, dyslexie, dysphasie, etc. La casse du système santé frappe également donc la jeunesse et cela est inacceptable. C'est pourquoi vous êtes invité donc à cette manifestation le mardi 11 juin à 18h devant la sous-préfecture du Vigan. Et on reste dans le Gard avec des mécontentements aussi là de la part d'associations qui alertent là directement la préfecture du Gard, donc du côté de Nîmes. C'est dans les colonnes de la Marseillaise qu'on peut lire ça aujourd'hui. C'est notamment le réseau Nîmois des droits de l'homme, ainsi que l'association pour les migrants, qui dénonce un dysfonctionnement des services de la préfecture. Dysfonctionnement, certains parlent même d'acharnement. Tous les jours depuis 4 ans, des dizaines de personnes étrangères, en situation régulière, perdent leurs droits et plongent dans l'irrégularité pour des raisons notamment de retard de la préfecture du Gard, de changements inopinés de procédures, de manque d'accès à l'information en tant qu'usager des services publics, d'impossibilité d'obtenir quelqu'un au bout du fil ou en présentiel, si ce n'est un agent de sécurité. Voilà un petit résumé assez inquiétant de la part de Julie Houhou, qui est fondatrice et directrice de l'Association pour les migrants de Nîmes. Cette inquiétude est partagée par le réseau Nîmois des droits de l'homme, qui rappelle d'ailleurs que ce dysfonctionnement peut avoir des conséquences lourdes pour les personnes concernées, comme leur faire perdre leurs droits sociaux ou encore leur travail, faute d'être en capacité de faire renouveler leur titre de séjour. La préfecture, pour l'instant, n'a pas réagi à ces interrogations. Plutôt que d'examiner dans un délai normal les demandes de titre de séjour, la préfecture est amenée à délivrer des récépissés de demandes de 3 mois, qui eux-mêmes viennent à expiration et donc ne font que surcharger les personnels du service concerné, finalement tout cela aggravant encore plus les retards, explique plus en détail donc le réseau Nîmois des droits de l'homme. D'ailleurs dans ce réseau, on peut lire qu'il y a l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, l'APTI, l'association pour la promotion des travailleurs immigrants, Amnesty International, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire international des prisons, et enfin, le réseau Éducation sans frontières. Voilà, tous ces collectifs qui sont donc regroupés dans le réseau Nîmois des droits de l'homme. D'ailleurs, les cas de familles qui se retrouvent du jour au lendemain en situation irrégulière après avoir passé de nombreuses années sur le territoire sont qualifiés d'inadmissibles par ces assos qui espèrent que plus de moyens seront donc alloués à ce service. Et j'en profite dans la même thématique pour vous informer que normalement demain, sur les ondes d'Escapade, j'espère à 12h30, vous aurez une émission qui a été enregistrée la semaine dernière avec l'ACOSOR qui travaille aussi avec les migrants sur le territoire autour de Saint-Hippolyte et on y parlera notamment de la situation très préoccupante de la famille géorgienne de Gourami et Miranda, qui sont là depuis 6 ans maintenant et qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui vient justement de leur être remise par cette même préfecture du Gard. À Montpellier, ce sont une vingtaine d'associations qui témoignent des violences qui ont été commises ce samedi 1er juin. On était dans les rues des Beaux-Arts et de Boutonnet. C'était pendant le 27e Festival des Fanfares. Eh bien, une bande de militants masqués et encapuchonnés ont fait irruption pour agresser des personnes. Des milliers de spectateurs ont malgré tout vécu une belle soirée hein, en fanfare et en fait dans les rues. Mais certains donc ont assisté au passage violent d'une dizaine d'individus. Je vous le disais, avec des visages dissimulés sous des capuches et des masques. Ils ont frappé notamment un militant antiraciste au visage, une syndicaliste aussi. Cette victime qui a par exemple perdu une dent a dû être hospitalisée avant de déposer plainte. Des témoins qui ont reconnu parmi donc, cette agression et bien justement des jeunes de ce qu'on appelle le bloc montpelliérain. Un communiqué a été unitaire signé par plusieurs associations a été déjà diffusé ce week-end. Il a donné l'alerte, c'était ce dimanche. Et on peut lire dans les colonnes du journal Le Point, avec un G à la fin, le témoignage donc de la victime. Il était 22h30, j'étais entre la place Krasuki et la rue La Canale, j'allais chercher une bière. Puis j'ai aperçu entre 8 et 10 militants du bloc montpelliérain. En quelques secondes, on m'attrape par l'épaule, je me retourne et je prends une grosse patate dans la bouche. C'était ciblé, une agression à caractère politique. Je me suis réfugié derrière le stand d'une association du Petit Bar. Après un passage aux urgences, il a donc été déposé plainte au commissariat en ce début de semaine. Le communiqué qui relate les faits évoque d'autres agressions pendant cette soirée, hein. Des lancers de projectiles sur un stand qui était tenu par des femmes voilées, le téléphone cassé d'une passante qui filmait l'agression, et plus tôt dans la journée, une personne transgenre et syndicaliste qui a été menacée, prise à partie et filmée par le même groupe donc dans le parc Méric. Et d'ailleurs, un autre témoin, lui, indique avoir vu 4 individus se masquer. C'était justement pas loin de la place, quelques minutes avant les faits donc, où la personne a été frappée au visage. Ce groupe-là, le Bloc Montpelliérain, justement, le Point nous en parle un petit peu. Face au vieillissement de la Ligue du Midi et à l'abandon de l'activisme de Génération Identitaire, qui a été dissous depuis et qui maintenant s'appelle les Jeunes DOC, pour ce qui est de la branche locale, le mouvement fasciste montpelliérain, marqué par de fréquentes recompositions, semble donc se stabiliser autour de ce Bloc Montpelliérain. Il a été créé au début de cette année, en janvier. C'est un groupe qui se dit nationaliste révolutionnaire, c'est-à-dire néo-nazi, et qui a comme logo un éclair blanc sur fond bleu, se reprenant un petit peu l'iconographie des fascistes anglais ou italiens, dû notamment le Blocco Studentesco, lié au mouvement Casa Pound, du côté de Milan. Ce groupe, sur Montpellier, déclare aspirer à une régénération spirituelle et physique, notamment le côté physique, visiblement, puisque les sports de combat, ils aiment bien. Et ils sont d'ailleurs implantés dans le mouvement des Actifs Clubs, hein, des clubs de combat d'extrême droite. Le militant syndical qui a été agressé pendant la fête des fanfares ce samedi à Montpellier, lui affirme avoir reconnu justement deux des membres du groupe qui l'a agressé. Ces deux militants qui faisaient partie d'un groupe qui s'appelait Jeunesse Saint-Roch ou le collectif South Face, qui sont déjà à l'origine de plusieurs agressions, ont notamment été aussi vu et filmé en train d'intimider un journaliste indépendant qui s'appelle Ricardo Parera. C'était le jour de la manifestation des agriculteurs, le 26 janvier à Montpellier. Et ce même Ricardo Parera, d'ailleurs je vous en ai déjà parlé, puisqu'il est justement journaliste sur Montpellier et qu'il fait une cartographie de tous ces nouveaux groupes et notamment des utilisations de graphismes qu'ils font. Quelques heures en tout cas avant cette agression du 1er juin à la fête des fanfares de Montpellier, un télégramme, donc une publication sur les réseaux sociaux Telegram, publiait une photo d'une dizaine justement de ces militants, les mêmes visiblement, qui prenaient la pose puisqu'ils avaient fait un collage sous un pont, un gros collage avec une croix celtique, un symbole d'extrême droite. Et je vous le disais, la victime de l'agression a porté plainte, c'est ce qu'on lit en tout cas dans les colonnes de France Bleu Héros, qui a relaté aussi l'événement hier. Alors je viens d'apprendre l'existence, peut-être vous aussi, hein, vu qu'apparemment ça fait polémique, de cette fameuse poudre qui s'appelle Sniffy. Sniffy, une poudre énergisante à inhaler. En gros, du Red Bull à sniffer. Hein. Ça serait vendu en toute légalité, c'est vendu en toute légalité dans les bureaux de tabac depuis peu. La polémique a débuté le 21 mai, après la diffusion sur Instagram d'une chroniquette extraite d'une émission d'M6, qui s'appelait La Grande Semaine, où l'animateur, justement, explique qu'en France, pour 15 euros, on peut imiter les gestes d'un cocaïnomane en toute légalité. Ce produit ressemble donc à s'y méprendre de la cocaïne, c'est une petite poudre blanche. Dedans, on y trouve de la caféine, de la créatine, de la taurine, des acides aminés et de la maltodextrine. Tout ça est vendu avec une petite paille, ça se vend sur internet et dans certains bureaux de tabac. Les créateurs qui ont eu cette idée promettent que ceux qui l'inhaleront par le nez auront un effet énergisant de 20 à 30 minutes. Cette vidéo a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux et a pris par surprise toutes les personnes qui étaient impliquées dans la lutte contre les addictions en France, qui expliquent n'avoir pas vu venir ça. Le produit est donc bien légal. Les fabricants ont déposé la marque fin juin dernier auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle sans qu'aucune restriction, sauf l'interdiction de vente aux mineurs, ne puisse leur être opposée. Nous avons été d'autant plus abasourdis par la découverte de ce produit qu'il intervient dans un contexte d'augmentation forte de la consommation de cocaïne en France. Ça, c'est Bernard Basset qui explique cela. Il est président de l'association Addiction France et il est interviewé ici dans les colonnes de Science et Avenir. En 20 ans, dit-il, le nombre de consommateurs ayant expérimenté cette drogue a été multiplié par 4. On parle bien de la cocaïne, là, avec des conséquences telles que l'augmentation des passages aux urgences, 72 passages par semaine pour 2022. Autrefois cantonné aux grandes villes ou à des catégories sociales très aisées, qui en avaient une consommation festive ou l'utilisaient pour gérer le stress de leur boulot, cette drogue est donc désormais diffusée dans toutes les couches de la population et partout en France, avec une certaine image positive qui est liée notamment au fait qu'elle était très présente dans les milieux créatifs ou financiers, sans que se diffusent en même temps les problèmes de dépendance qui l'accompagnent évidemment, explique toujours donc ce spécialiste des addictions. Pardon. Les inventeurs, en tout cas, de ce que donc Sniffy, là, cette poudre énergisante, cette espèce de Red Bull à sniffer, ont repris donc toutes les caractéristiques de la cocaïne, texture, couleur, le grammage, puisque c'est vendu par dose de 1 gramme, le mode d'administration et l'effet produit. On peut lire par exemple sur le site de vente en ligne de cette poudre qu'on vous promet un regain d'énergie instantané grâce à son absorption rapide par la muqueuse nasale. Avec cette cocaïne décocaïnée, en quelque sorte, on banalise indirectement l'usage de la drogue. Circonstance aggravante, elle est même proposée en saveur sucrée et acidulée, fruits de la passion, bonbons fraises, nature, menthe fraîche, citron vert, qui, n'en doutons pas, attireront les plus jeunes. Cette poudre a donc fait la polémique et suscité aussi une vive réaction de la part du syndicat des buralistes qui a déconseillé à ses adhérents de la vendre afin de préserver l'éthique du réseau. Bon, dans l'article que j'ai sous les yeux où justement le spécialiste des addictions Bernard Basset est interviewé, le côté éthique des bureaux de tabac, lui, ça le fait un petit peu ricaner, parce qu'il rappelle que quand il s'agissait de vendre les puffs, vous savez, ces petites cigarettes électroniques au goût bonbon, ou des cigarettes aux mineurs, les bureaux de tabac sont quand même toujours présents. Et il rappelle d'ailleurs que les buralistes sont subventionnés par l'État dans l'objectif de faire évoluer leur commerce et d'ailleurs normalement par la même occasion de faire baisser l'achat de tabac. S'il devait donc y avoir une éthique, dit-il, ce serait d'arrêter de vendre tous ces produits aux plus jeunes. Du côté des autorités de santé, enfin, il y a une réaction rapide, mais c'est encore une fois là le reportage d'M6 qui a déclenché tout ça. Les voies, on va dire, légales et institutionnelles n'ont pas été activées. C'est le ministre délégué chargé de la santé, Frédéric Valletoux, qui a exprimé sa profonde inquiétude. C'était sur France Info ce 25 mai, et il a promis de tout mettre en œuvre pour obtenir rapidement l'interdiction du produit. Alors là aussi, on va laisser la parole au président d'Addiction France et qui rappelle que justement les fameuses puffs qui sont apparues en France en 2020 et qui avaient elles aussi provoqué un tollé ne sont toujours pas interdites, même si une loi en ce sens a été votée. Elle est en consultation en ce moment au niveau de l'Union européenne. Et d'ailleurs, il en profite pour glisser une ou deux petites remarques de plus et rappeler qu'avec Addiction France, il milite aussi pour l'arrêt du shampoing, pour les mêmes raisons que le Sniffy. Mais là, dit-il, évidemment, l'État est moins présent quand il s'agit de l'addiction à l'alcool, qui est pourtant à l'origine de 41 000 décès par an. Finalement, dit-il, cette affaire de Sniffy, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt d'une politique de prévention des addictions très tolérante vis-à-vis de certaines drogues et un petit peu moins avec les autres.
C'est pour ça.
Ça ne veut plus rien dire, hein ?
C'est pour ça que je crois que j'ai besoin d'un petit remontant. Je vais demander un petit café, c'est pour ça.
Voilà, le café, une saine addiction qui nous vient aussi d'autres, par contre, de l'autre côté du monde. On passe à, on va justement de l'autre côté de l'océan avec un petit tournant dans cette lutte. Enfin non, on va pas de l'autre côté de l'océan, pardon, on reste ici du côté de la montagne de Lure, mais le Canada est impliqué dans l'histoire. Je vous explique ça. C'est la justice qui a donné raison aux écologistes face à la multinationale canadienne qui s'appelle Boralex. Celle-ci est en train de construire un vaste projet photovoltaïque sur la montagne de Lure. On est dans les Alpes de Haute-Provence. Eh bien, la Cour administrative d'appel de Marseille a jugé illégal, c'était ce vendredi, l'arrêt préfectoral qui permet donc à l'entreprise canadienne de déroger au droit environnemental pour détruire des espèces et des habitats protégés. Donc pas de dérogation. Nous nous attendons maintenant évidemment à ce que la société Boralex porte l'affaire devant le Conseil d'État pour évidemment essayer de contrer cette décision. Mais en tout cas d'ici là, sans autorisation légale, ils ne peuvent plus faire de travaux sur place. C'est l'association Amilure qui est donc opposée à ce projet qui l'explique par la voix de leur avocat. Depuis plusieurs années, donc, ce combat fait rage dans sur les bancs des tribunaux administratifs. Les militants ont bloqué à plusieurs reprises le chantier, qui a déjà rasé plusieurs hectares de forêt. Un groupe qui s'est auto-appelé les Gardiennes de Lure, appelé à faire barrage aux multinationales qui viennent coloniser et détruire nos terres. Plusieurs opposants ont d'ailleurs été blessés par des bûcherons et des vigiles au cours d'altercations, certains à coups de barre de fer. Je vous en avais parlé, je crois que c'était l'année dernière. Des opposants avaient aussi été embarqués en garde à vue pour finalement écoper simplement d'amendes. En janvier dernier, en tout cas, une partie de ce chantier a carrément été incendiée. 400 panneaux photovoltaïques ont brûlé. Le préjudice s'était élevé à plusieurs dizaines de milliers d'euros. La piste criminelle a été évidemment privilégiée. Pour l'instant, donc, le dossier reste à l'arrêt.
Laisse béton.
En Papouasie, Nouvelle-Guinée, plus de 2000 personnes sont ensevelies dans un glissement de terrain, avec un premier bilan officiel de 670 morts, qui fait malheureusement craindre beaucoup plus de victimes, d'autant que l'intervention des secours est rendue difficile par l'éloignement du site, les précipitations qui continuent et aussi des affrontements tribaux. Ce type de catastrophe a vocation malheureusement à se multiplier avec le réchauffement climatique. Pour ce qui s'est passé donc en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est tout un bout de la montagne qui s'appelle le mont Yambali, qui s'est effondré. C'était le vendredi 24 mai, ça fait déjà 10 jours, vers 3 heures, recouvrant des dizaines de maisons et surprenant les habitants de plusieurs villages dans leur sommeil. Le bilan le plus récent qui a été établi par les Nations Unies fait état d'au moins 670 morts, mais corrige le Post Courrier, un journal local, 2000 des 3000 habitants du village de Tulipana, c'est le village qui a été le plus touché, sont toujours portés disparus et on craint fort qu'ils soient aussi décédés sous les décombres. Une imprécision donc sur les chiffres qui s'explique notamment par l'éloignement du site et la difficulté d'obtenir une estimation précise de la population qui vivait là. Le dernier recensement crédible remontait à l'année 2000 en Papouasie-Nouvelle-Guinée et de nombreuses personnes vivent dans des villages montagneux isolés. Un site isolé donc qui complexifie la course contre la montre pour acheminer des secours et qui réduit toujours un peu plus les chances de retrouver des survivants. Un témoignage de quelqu'un qui était sur place, le chef de la mission des Nations Unies à Port Moresby, la capitale du pays, explique ceci. La situation est terrible, la terre continue de glisser, l'eau coule toujours et cela crée des risques énormes pour toutes les personnes présentes sur place. Les villageois utilisent ainsi des bêches, des bâtons ou leurs mains nues pour tenter de déplacer les débris et atteindre d'éventuels survivants. 18 membres de ma famille sont enterrés ici, sous ces débris sur lesquels je me trouve, témoigne un villageois qui s'appelle Evit Kambou. Mais, dit-il, je ne peux pas récupérer les corps, alors je reste ici impuissant. En effet, les coutumes locales accordent une très grande importance à la récupération des corps. Et pour Justine Mahon de l'ONG CARE, justement en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est pour cela que tout ordre d'évacuation de la population est très sensible et très complexe. Seulement 9 corps ont jusqu'à présent été retrouvés, d'après les autorités sanitaires locales. En plus de l'éloignement, donc l'acheminement des pelleteuses et d'autres machines d'excavation a été retardé, notamment par des affrontements tribaux dans la région qui ont forcé les travailleurs humanitaires à voyager dans des convois escortés par l'armée. 12 jours donc après la catastrophe, les habitants continuent encore de creuser dans la boue profonde et de déplacer des pierres, avec toujours l'espoir de retrouver leurs proches ou en tout cas leurs dépouilles. Des géologues et des experts estiment que cela pourrait malheureusement tout cela provoquer un nouveau glissement de terrain et que les habitants ne peuvent donc pas rester sur le site. Avec notamment les gros engins qui sont arrivés sur place récemment, qui pourraient aussi faire basculer des blocs rocheux qui sont perchés au-dessus d'eux. Et tout cela notamment en raison des mouvements ou des vibrations des machines. Les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée mettent d'ailleurs en garde contre un risque élevé de nouveaux glissements de terrain sur le site. La Papouasie-Nouvelle-Guinée connaît un des climats les plus humides du monde, hein, avec de violentes précipitations qui frappent ses hauts plateaux. Mais la variation des régimes pluviométriques en raison du changement climatique augmente considérablement ce risque de glissement de terrain. En mars, d'ailleurs, une catastrophe similaire dans une province à côté avait déjà fait au moins 23 morts. Et oui, les pluies, on va en parler de plus en plus. Déjà pour ce qui est de la France, hein, ce printemps que tout le monde qualifie d'automnal, se classe en effet le quatrième parmi les plus pluvieux depuis 1959. C'est Météo France qui a fait ce communiqué hier, sur la période courant mars, avril et mai. Donc c'est la période la plus pluvieuse jamais enregistrée depuis 16 ans. Si la Corse et le bassin méditerranéen font figure d'exception, tout le reste de la France a connu au moins un jour de pluie tous les trois jours. Certaines zones comme les Cévennes, le Nord-Est et les Alpes-Maritimes ont enregistré un volume de précipitations qui équivaut au double des normales de saison, ce qui a eu pour conséquence plutôt positive de recharger durablement les nappes souterraines. Ça, c'est le BRGM, le fameux Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui l'expliquait dans son dernier rapport mensuel. Pas beaucoup de soleil, hein, c'est aussi ce qu'on peut retenir de ce printemps. En outre, sur les Pyrénées et l'île de Beauté, le soleil donc plutôt discret que la moyenne de saison. Attention aux apparences, malgré tout, hein, les températures moyennes de ces trois derniers mois sont malgré tout au-dessus des normales saisonnières. Dans ses prévisions à trois mois, Météo France ne privilégie aucun scénario, sauf pour les régions du sud, l'Occitanie d'abord. Le thermomètre dépassera très probablement, une fois de plus, la moyenne des relevés de 91-2020. Donc il risque de faire quand même malgré tout très très chaud cet été. Et on termine, puisqu'on est dans le climat, avec des inondations qui continuent aussi de faire des ravages là dans le centre de l'Europe, notamment en Allemagne, en Suisse et en Italie, avec des secouristes qui recherchent toujours plusieurs personnes portées disparues. Des rivières déchaînées, une montée des eaux qui surprend les habitants. Le sud de l'Allemagne fait notamment face à des inondations historiques. Ces crues ont déjà causé la mort d'au moins 4 personnes, dont un pompier volontaire qui était en pleine mission d'évacuation. On était en Bavière. Un autre secouriste de 22 ans est toujours porté disparu. Et quelques dizaines de kilomètres plus loin, à Ratisbonne, c'est le Danube qui a atteint un niveau record de 5,9 mètres. Les autorités ont d'ailleurs déclaré l'état d'urgence dans cette région, dans ce Länder. La Suisse aussi reste sur le qui-vive, hein, avec le Rhin, qui est entre l'embouchure de l'Ar et la ville de Bâle, qui est toujours au niveau d'alerte 3 sur 5, tout comme le lac de Constance. Les autorités s'attendent à ce que les eaux continuent de monter jusqu'en milieu de semaine, et elles pourraient même atteindre le niveau de danger. En Italie, enfin, dans le nord, des plongeurs, des drones et des hélicoptères continuent de rechercher un jeune homme qui a été emporté par des crues soudaines, un jour après la découverte de deux autres corps. Voilà, des précipitations qui ont des conséquences dramatiques de plus en plus, et c'est d'ailleurs dans un rapport qui a été publié ce mois-ci par l'Agence européenne pour l'environnement que l'on s'inquiète et qu'on tire la sonnette d'alarme sur ces phénomènes. À savoir que 12% de la population européenne vit justement dans des zones à risque. Ces phénomènes extrêmes devraient se multiplier et s'intensifier à l'avenir. Or, en apprend-on aussi dans ce rapport, l'Union européenne n'est pas suffisamment prête et doit agir sur deux fronts. Il y a deux choses principales. Effectivement, des moyens financiers. Ça veut dire aussi que dans le cadre financier européen, toutes les politiques d'adaptation doivent être intégrées. Les pays doivent massivement investir dans les politiques d'adaptation. Ce sont les mots d'Alain Marron, qui est ministre bruxellois de la transition climatique et qui préside actuellement les réunions du Conseil de l'Union européenne sur l'environnement. L'autre point, ça concerne des changements de pratiques. La mise en place des solutions basées sur la nature, dit-il, c'est ça qui est le plus efficace et ça ne coûte pas nécessairement plus cher. mais c'est vraiment des changements de modèle, des changements d'état d'esprit, presque des changements culturels. C'est pas nommé, mais l'artificialisation des sols est bien évidemment en première ligne de mire de cette remarque, ou la construction de nouvelles autoroutes. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les inondations pourraient donc s'intensifier principalement dans le nord-ouest de l'Europe, ainsi que dans le centre du continent.
Il y a de quoi se vendre la gueule, non ?
Et voilà, c'est là-dessus qu'on se quitte, les amis, et j'en profite pour vous dire d'être vigilant. Si jamais vous avez des quintes de toux un petit peu exagérées, sachez qu'il y a de la coqueluche qui circule en ce moment sur le territoire, voilà, vous êtes prévenus. Eh bien, portez-vous bien, on se voit jeudi prochain. Nous, on va aller quand même profiter un petit peu des rayons de soleil qui sont pas encore trop trop chauds. Allez, bye bye.
Monsieur des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.